changer. Patrick Cohen.
Bonjour Marie Dauzé.
Bonjour.
Avocate pénaliste au barreau de Paris, on vient d'évoquer la proposition socialiste qui vise à renforcer la loi contre les violences sexuelles sur mineurs, texte qui sera discuté aujourd'hui à l'Assemblée et qui s'ajoute, on l'a dit, à d'autres propositions de réforme. Pourquoi dites-vous que tout cela est inutile ou improductif ?
Mais tout simplement parce que j'ai le sentiment que nous sommes face à des propositions de loi compulsionnelles, qui d'ailleurs sont toutes motivées soit par l'affaire Duhamel, soit par l'affaire Springora, alors même que le droit existant répond déjà à ces deux affaires. Pourquoi je dis ça ? Si aujourd'hui, à l'aune du droit existant, Madame Springora et le frère de Camille Kouchner déposaient plainte, il n'y aurait pas de prescription. Et il n'y aurait pas de difficulté non plus pour établir le non-consentement de Madame Springora. En tout cas, eu égard à l'élargissement de la définition de la contrainte par la loi Schiappa.
Alors attendez, d'abord sur la prescription, parce que la loi qui s'applique aujourd'hui, évidemment, elle n'est pas rétroactive.
Non.
Donc voilà, mais la loi permet à un plaignant jusqu'à
48 ans.
48 ans, c'est-à-dire 30 ans après sa majorité.
C'est ça, 48 ans. C'est-à-dire
d'actionner la justice.
Voilà, on est sur une quasi-imprescriptibilité, évidemment, à 48 ans. Quand on a été victime d'un viol à 5 ans, on peut déposer plainte, saisir la justice jusqu'à ses 48 ans.
Mais
donc le mis en cause va avoir 60, 70, 80 ans.
Loi qui ne peut pas s'appliquer aujourd'hui pour ces affaires qui sont anciennes. Et sur la question du consentement, vous dites que la loi actuelle, telle qu'elle a été révisée en 2018, ce qu'on appelle la loi Schiappa, ne laisse pas de doute ou de place à des mauvaises interprétations ?
Écoutez, d'abord, on n'en sait rien, on n'a même pas eu le temps de l'éprouver. Elle n'a pas encore rencontré ses juges. Cette loi, cette réforme, qui est une réforme importante, elle date d'août 2018. Dès le mois de février 2020, une mission a été mise en place pour évaluer cette réforme. Mais cette réforme, elle n'était pas arrivée devant les tribunaux. Vous imaginez bien que moins de 18 mois d'existence ne permet pas à des juges de rencontrer un texte. Donc ça, c'est le premier point. On est en train de réformer la réforme qu'on n'a toujours pas rencontrée, nous les avocats ou nous les magistrats. C'est beaucoup trop tôt. Pourquoi est-ce que Madame Schiappa, à l'époque, avait renoncé à faire ce qu'aujourd'hui les députés veulent voir aboutir ? Tout simplement parce qu'il y avait une réserve du Conseil d'État. Un avis du Conseil d'État qui a expliqué que ces propositions de loi actuelles seraient probablement entreraient en violation avec la Constitution. Voilà, seraient contraires à la Constitution, tout simplement parce qu'on ne peut pas, en matière criminelle en tout cas, poser un principe de présomption de culpabilité quasi irréfragable. C'est un peu compliqué, mais c'est important. Parce que tout ce débat qu'on a aujourd'hui, on l'a eu hier. On l'a eu en août 2018, et ça a duré des semaines et des mois, et ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Et finalement, à un moment donné, le législateur décide, après avoir pris avis du Conseil d'État, après avoir compris pourquoi est-ce qu'une telle réforme risquerait d'entrer en violation avec la Constitution, et donc choisit une autre définition, notamment de la contrainte et de la surprise, ou plus exactement un élargissement. Mais attendons de voir ce que ça donne. Et je relisais là à l'instant la motivation de l'arrêt de la Cour d'assises dont vous avez parlé dans le dossier Tron. Je suis désolée, mais encore une fois, on pose mal la question. Ça n'est pas vrai qu'il faut démontrer que la victime n'a pas consenti pour pouvoir condamner quelqu'un. C'est faux. C'est pas comme ça que ça se pose. Ce qui se pose, c'est est-ce que la personne a agi par violence, menace, contrainte ou surprise ? On ne part pas de la victime, on part du mis en cause. Et c'est d'ailleurs, pardon, mais toute la finesse, ou en tout cas la délicatesse de ce texte, que de ne pas faire peser sur les bras de la victime la nécessité de prouver l'infraction. C'est bien au parquet de démontrer qu'il a agi avec contrainte ou surprise. Et la contrainte, c'est aussi, en tout cas, elle peut résulter, et ça c'est la réforme Schiappa, de l'autorité de droit ou de fait. Eh bien regardez l'arrêt de la Cour d'assises. La Cour d'assises dit clairement, ces faits de viol et d'agression sexuelle ont été commis par surprise, mais également par contrainte morale, au regard du lien de subordination de la victime à l'égard tant de Georges Tron, maire, que de son adjointe, exerçant nécessairement un ascendant sur leur collaboratrice. Voilà,
d'accord.
Il n'est pas question de
Donc la question du consentement, généralement, n'est pas débattue lors des procès de crimes sexuels.
En tout cas, pas comme ça. Pas comme on vous le montre et comme on vous la scène toute la journée. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe.
Et sur l'idée d'un allongement de la prescription pour non-dénonciation de crimes ? Aujourd'hui, c'est 3 ans.
Écoutez, je vais vous dire, il y a 3 semaines à peine, notre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a exhorté tout le monde à ne pas se précipiter. Il a surtout expliqué qu'il ne fallait pas se précipiter sur de tels sujets. Depuis 5 jours, il nous explique qu'il faut aller vite et a évoqué cette histoire de prescription en cascade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réveiller la prescription de faits prescrits? Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que un fait n'est pas prescrit, tous les autres vont être contaminés par cette absence de prescription, et on va donc réveiller une prescription qui était pourtant acquise. Mais c'est complètement dingue. Je ne sais même pas comment ça peut tenir légalement. Et puis surtout, ça n'a plus de sens. Parce que, en fait, ça veut dire qu'on ne comprend rien à ce qu'est la prescription.
Oui, alors quel est le fondement de la prescription? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de... d'incompréhension dans le grand public, et puis c'est un principe qui a souvent été discuté, y compris par les professeurs de droit.
Bien sûr, et il est de plus en plus. Moi, il y a une chose, je suis praticienne, je suis avocat, donc je rencontre autant de victimes que de mises en cause. Je peux vous dire une chose, la prescription, elle peut aussi être utile aux victimes. Il y a plein de victimes qui attendent que la prescription soit acquise pour parler, parce qu'elles ne veulent absolument pas rentrer dans la sphère judiciaire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. La prescription, ce n'est pas dire que le crime n'a pas existé. La prescription, c'est aussi aider quelqu'un à ne pas, jusqu'à ses 70, 80, 90 ans, se dire, est-ce que je dépose plainte ou pas? Est-ce que je dépose plainte ou pas? Est-ce que je dépose plainte ou pas? C'est aussi, à un moment donné, obliger la personne à tourner une page. Soit celle de la plainte, soit celle de la libération d'une parole ailleurs que dans la sphère judiciaire. Et la prescription, elle est aussi faite pour les victimes. Elle n'est pas faite, il faut cesser de l'imaginer comme une impunité. Elle est faite pour la société tout entière. C'est aussi le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Quelqu'un qui avait 20 ans, au moment où il a commis un fait, ne peut plus être poursuivi quand il en a 70, 80, 90 ans. Oui, c'est aussi ça, c'est Homère, la prescription interdit à l'homme mortel de conserver une haine immortelle, et c'est notre devoir de l'expliquer et de le faire comprendre.
Et pourtant, Marie Dosé, les procédures sont ouvertes, des procédures sont ouvertes par le parquet sur des faits manifestement prescrits. Ce qui vous semble inquiétant et dangereux, vous êtes l'auteur d'une tribune signée par 5 autres... avocat, tribune intitulée « Le tribunal médiatique a fini par contaminer l'ordre judiciaire ». Vous voulez dire que le procureur de Paris se plie davantage aux pratiques des médias qu'aux principes du droit?
Mais oui, mais notamment sur la motivation du classement. Moi, je veux bien qu'on ouvre des enquêtes préliminaires pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'autres crimes commis qui ne sont pas prescrits. J'ai pas de difficulté là-dessus, mais mon problème, il n'est pas là. Il est qu'on va ouvrir une enquête préliminaire, sur des faits prescrits. Et que le procureur classe cette affaire, en rappelant certes que les faits sont prescrits, mais que l'infraction semble constituée, que l'infraction dénoncée revêt une qualification pénale. En gros, et le plaignant pourra l'asséner, il est coupable, mais il est impuni grâce à la prescription. Mais enfin, c'est l'autorité de poursuite. Cet homme ne verra jamais dans son parcours judiciaire un juge indépendant et impartial, un tribunal correctionnel. Le procureur ne juge pas. Donc à la fois les faits sont prescrits, mais on vous indique que quelque part, il est probablement coupable. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que c'est rendre judiciaire le soupçon. Voilà. On n'aura jamais de jugement, on rencontrera jamais un magistrat indépendant et impartial, mais on rend le soupçon, on donne une caution judiciaire au soupçon.
Et la réputation de l'accusé est définitivement ruinée. Vous voudriez que la parole des victimes ou des plaignants soit ignorée par la justice? Non, quand elle n'a aucune chance de déboucher sur un procès?
Moi, je vais vous dire une chose. La libération de la parole, elle était nécessaire et elle a été merveilleuse. Il fallait que ça arrive. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas se tromper de sphère, en réalité. Je pense qu'il est temps en France qu'on travaille sur des mécanismes de justice restaurative, par exemple. Les faits sont prescrits, et bien institutionnellement, on va créer, on va fabriquer, en dehors de la sphère judiciaire, en dehors du tribunal médiatique, des endroits où on va pouvoir libérer une parole face à des auteurs de violences sexuelles qui ont reconnu leur crime, face aussi à celui qui continue à le nier, mais en tout cas, l'espace de parole institutionnel existera avec des professionnels. Il est temps, en fait, d'épargner la justice de tout cela et d'arrêter de faire croire aux victimes qu'elles iront mieux en transformant le tribunal auquel elles n'ont plus le droit en tribunal médiatique. Et encore une fois, toutes ces femmes qui aujourd'hui sont victimes de violences sexuelles pourront déposer plainte pendant très longtemps, pendant des décennies. On est sur une quasi-imprescriptibilité. Laissons le temps à la loi d'exister.
Un dernier mot, Marie Dosé, vous êtes l'avocate du comédien Philippe Cobert qui a fait l'objet d'accusations monstrueuses, fausses et publiques qui ont été balayées par l'enquête de police. Son accusatrice sera jugée?
Ça aussi, c'est important qu'on y revienne. Il n'est pas vrai lorsqu'on me répond en disant « mais il suffit de déposer plainte pour violation de la présomption d'innocence, il suffit de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse, diffamation, mais je l'ai fait ». Et on n'aura pas de jugement avant 3-4 ans. Et cette jeune femme ne vient pas aux convocations. Parce que cette jeune femme dit, de toute façon, j'irai pas en prison et je m'en moque. Et moi, cette justice patriarcale, je la respecte pas. Et à partir de là, faites ce que vous voulez. Et quand on tape Philippe Cobert sur Internet, l'une des premières images qu'on a, c'est cette jeune femme en train de raconter un viol qu'il n'a pas commis. Et je n'ai pas réussi et je ne réussirai jamais à faire retirer cette vidéo du YouPost. Mais il y a la petite phrase. Nous vous rappelons que cette plainte a été classée sans suite. C'est ça la présomption d'innocence ? C'est ça le respect de la présomption d'innocence ? Pardon, le respect de l'innocence. Parce que la justice a effectivement acté qu'il l'était.
Merci beaucoup Marie Dosé.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.